un invité spécial qui va nous apporter la parole ce matin. C'est Abdias Adam. Alors, est-ce que tout le monde est avec moi? Oui? Alors, Abdias, il est comme Mélodie, je dis bien Mélodie. Il fait un apprentissage au pastorat, mais dans une église sœur qui s'appelle Grace Alliance Church, qui est, enfin, on peut dire Grace Alliance, qui est sur le plateau Mont-Royal. Et avec son épouse, Émilie, ils sont, on pourrait dire, ils sont dans l'équipe pastorale, en tout cas en ce moment, dans l'église là-bas. Et Abdias nous a dit, ben, j'ai aussi un peu de temps supplémentaire dans ma formation pour aider l'Oasis avec le ministère jeunesse. Alors, on est en train d'explorer ça en ce moment. Est-ce que j'ai raison? Alors, il y a peut-être des choses que je ne sais pas encore, mais on est en train d'explorer la possibilité que tu nous aides cette année avec les ados. Mais aussi, tu nous as offert de venir prêcher, et donc on a dit oui. Et donc, c'est Abdias qui va nous apporter la parole ce matin. Abdias et Émilie étaient mes étudiants à l'ETEC. Et j'ai remarqué que quand même, parfois, ils s'assoyaient ensemble dans le cours. Puis là, par la suite, j'apprends qu'ils se sont mariés. Alors, c'est toujours des bonnes nouvelles. Je ne connais pas les détails, mais je suis très heureux pour vous. Donc, Abdias, je vais te demander de t'approcher, puis on va prier pour toi et te passer la chair. Oui, Seigneur. Donc, on a beaucoup prié déjà. Je veux simplement te remettre Abdias, mon frère. Alors, il est ici pour servir et il est dans une perspective aussi de formation, bien qu'il a déjà prêché dans d'autres endroits et il a exercé le pastorat. Mais Père, mets-le à l'aise. Donne-lui de vraiment être rempli de ton esprit pour nous amener ce que tu as mis sur son cœur pour nous ce matin. Nous prions pour Abdias et aussi pour son épouse, Émilie. Bénis ce moment, ouvre nos oreilles spirituelles. Nous prions au nom de Christ. Amen.
Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, je suis très stressé. Surtout quand je vois Troy, Mélodie, tout le monde, c'est... Je disais à Émilie tantôt, est-ce que je vais m'en sortir aujourd'hui? Amen. Je suis content de revoir certains frères et sœurs que j'avais vus il y a de cela quelques semaines, vendredi, je pense bien. Et vraiment, je suis béni. OK, ben, on va lire dans Matthieu 3, verset 13. Au chapitre 4, verset 17. Je peux lire directement ici, c'est correct. On peut continuer. Mon message, je l'ai intitulé « À la traversée du désert ». Vous savez, le pasteur Mac m'a dit qu'il avait prêché, il avait parlé de la traversée du désert d'une certaine façon, il y a de cela quelques semaines, avec Jésus au désert qui a passé 40 jours et 40 nuits. Et je pense qu'il a très bien fait. Donc, moi, mon message sera probablement très court. Amen. À la traversée du désert, permettez-moi de... OK, gloire à Dieu. De lire le passage. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant. » Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Je vous rassure, mon message ne sera pas aussi long que la lecture. Donc, pas de quiétude pour ça. Pourquoi le désert? Ça, c'est la grande question. Pourquoi le désert? Dans la Bible, le désert est présenté de différentes façons. Le désert est présenté comme une terre sèche et vide. C'est un lieu ou un endroit qui suscite l'inconfort. On a l'exemple d'Israël, la traversée dans le désert pendant 40 jours, pendant 40 ans plutôt. Mais le désert est aussi représenté dans la Bible comme ce lieu où Dieu vient nous rencontrer, nous éprouver, nous façonner. On a l'exemple de Joseph, par exemple, lui qui a eu cette grande vision et qui dit à ses frères et à son père, « Écoute, je serai roi demain. » Et ses frères sont jaloux, ses frères le jettent, le prétend qu'il a été tué et il traverse un désert. Mais pendant ce désert, qu'est-ce qu'il a fait? Je me pose souvent cette question. Seigneur, n'es-tu pas capable de nous faire atteindre l'autre niveau? N'es-tu pas capable de nous faire entrer dans ta vision, dans ce que tu attends de nous sans nous faire passer par le désert? Amen. Pourquoi le désert? Pourquoi doit-on souffrir? Pourquoi Israël devait passer 40 ans dans le désert au lieu de prendre le chemin le plus court parce qu'il y avait un autre chemin? Pourquoi? Nous trouvons la réponse, en tout cas pour moi, j'ai trouvé la réponse dans la vie de Jésus. Lui qui est 100% homme nous présente le désert. Nous présente comment Dieu utilise le désert pour notre bien, même si ce n'est pas confortable. Pour ceux qui aimeraient prendre des notes, afin de bien suivre le message, je vais présenter mon message en trois grandes parties. Donc, la première partie, je l'ai intitulée « Annonce d'une nouvelle saison ». Et là, nous allons nous concentrer sur Matthieu 3, du verset 13 au verset 17. La deuxième partie, le désert, une zone pour nous équiper. Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. Et enfin, le désert, passage d'entrée vers une autre dimension. Amen. Annonce d'une nouvelle saison. Retournons un peu sur Matthieu 13, du verset Matthieu 3 plutôt, excusez-moi, du verset 13 au verset 15. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Observons un peu cette scène. Nous savons qu'après Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il est allé au désert. Il a été conduit par le Saint-Esprit au désert. Mais quel a été l'élément qui a entraîné cela? Pourquoi le Saint-Esprit l'a conduit au désert? Nous ne pouvons pas savoir tout au complet, mais il y a un truc qui est important et intéressant à relever là, c'est premièrement, le fait que Jésus s'est soumis à Dieu. Lors de son baptême, Jésus n'a pas fait comme Jean. Jean ne comprenait pas. Dans les versets précédents, Jean disait, les pharisiens et tout le monde lui demandaient, « Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi que nous attendons ?» Et Jean répond, « Écoutez, ce n'est pas moi. Il vient, le Messie. Je ne suis pas digne même d'enlever la courroie de ses sandales. Je ne suis pas digne. » Et là, tout d'un coup, on voit Jésus qui arrive. Et Jésus se présente à Jean. Jean reconnaît Jésus. Il est surpris, mais pourquoi, moi qui suis si bas, pourquoi tu viens auprès de moi? Pourquoi tu veux passer par les eaux de baptême? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être sauvé par toi. Mais Jésus dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il est bon que nous accomplissons ce qui est juste devant Dieu. Le premier point ici, c'est que Jésus fait preuve d'humilité. Jésus, lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, il ne s'est pas orgueilleux. Il ne s'est pas dit, ok, écoute, c'est moi le Messie, je fais comme je veux. Mais il nous montre un exemple de soumission parfaite. Il est passé par les eaux du baptême parce que c'est la loi, parce que le Seigneur attend ça de lui, attend ça de nous. Et par la suite, quelque chose d'autre se passe. Du verset 16 au verset 17, on dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Premièrement, Jésus s'est soumis à la volonté du Seigneur. Et deuxièmement, il y a eu la confirmation, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Comment se présente le désert devant toi? Es-tu sûr que tu es dans un désert? Qu'est-ce qui peut te faire dire que, écoute, ce que je traverse aujourd'hui, les difficultés que je traverse, les circonstances que je traverse, c'est vraiment un désert, c'est la volonté du Seigneur. Es-tu convaincu de ça? La question est, Seigneur, suis-je en bon terme avec toi? Premièrement. Seigneur, ai-je fait quelque chose qui t'offense? Il est facile de, souvent, quand on se lève, quand on traverse les jours, les journées, de se dire, ok, ça, ce que je traverse là, ce problème que j'ai, forcément, c'est un désert. Et souvent, on ne fait pas une rétrospection de notre vie. On n'observe pas si notre vie est en bon terme avec le Seigneur. L'image qui me vient à l'esprit par rapport à ce passage, c'est un peu l'exemple d'une voiture. Vous connaissez? La voiture, si tu ne prends pas soin d'elle, un jour, elle va te lâcher sur l'autoroute. Si tu n'es pas attentif à son fonctionnement, si tu n'es pas attentif au problème, il y a toujours des signes. Tu vas voir la lumière qui monte, qui manque d'huile, qui manque ci, qu'il faut de l'entretien, ça commence à faire des bruits, ça commence à déranger. Récemment, on a acheté une voiture, Émilie et moi, je rends gloire au Seigneur. Et cette voiture, Émilie l'a conduite. Et après, elle disait, ben, je vous rassure, je n'ai pas encore mon permis de conduire complet. Donc. Donc, le jour où on a pris cette voiture, elle a conduite. Et quand on voulait faire l'achat, elle n'était pas à l'aise. Elle disait qu'il y a un problème avec cette voiture. Quelque chose ne va pas. Moi qui n'ai pas conduit la voiture, je ne comprenais pas. Je disais, mais elle est une belle voiture. Elle est cool. Pourquoi tu ne veux pas? Elle dit qu'il manque quelque chose. Il y a une instabilité. Cette voiture, quand je l'ai conduite, j'ai senti dans mon cœur quelque chose qui m'a dit, attention, risque d'accident. Et j'étais choqué, j'étais surpris. Mais comment? Moi, j'étais dans la voiture, je n'ai rien senti d'étrange. Mais c'est elle qui conduisait. Donc, c'est elle qui savait ce qu'elle vivait. Et quelques temps après, le vendeur, le concessionnaire nous a dit, ah, écoutez, effectivement, cette voiture a un problème. Il faut énormément de réparations avec cette voiture. La suspension a un problème. Les freins ont un problème. On était surpris. Waouh! Tous ces problèmes. Bien sûr, on a fini par acheter cette voiture. Ne vous inquiétez pas, ça a été réparé. Donc, donc le désert se présente à nous, mais nous devons d'abord nous poser cette question. Suis-je en bon terme avec le Seigneur? Jésus, lui, il présente qu'il est en bon terme avec le Seigneur. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il est passé par les eaux de baptême. Il a fait les choses qu'il fallait. Ainsi, quand l'Esprit l'a conduit dans le désert, on ne pouvait pas se dire, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui va mal avec lui? Pourquoi l'Esprit le conduit là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Mais il le confirme dans Matthieu 3. Non, il est droit avec Dieu. Tout est bon avec lui. Donc ça, c'est comme une première parenthèse dans le sens, est-ce que ce que nous traversons actuellement, c'est un désert? Ou est-ce que c'est une conséquence de notre désobéissance, de notre orgueil, de notre façon d'agir, de notre façon d'être dans notre entourage? Est-ce que si aujourd'hui, mon patron me chasse de mon emploi, je dirais, écoute, j'ai fait ce qu'il attendait de moi. Ou est-ce qu'au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Amen. Donc ça, c'est la première question à se poser. Maintenant, continuons. Alors, maintenant vient une autre question à savoir, mais pourquoi alors Jésus doit passer par le désert? Il est bien, il est juste, il est droit. On voit qu'en lui, il n'y a pas de faute. Il s'est soumis à la volonté de Dieu et il y a eu la confirmation du Saint-Esprit. Il y a eu la confirmation de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et si quand nous traversons le désert, nous devons avoir cette confirmation que, écoute, le Seigneur m'a confirmé qu'il est avec moi, que c'est juste une période compliquée. Et ensuite, vient cette question, mais ok, mais pourquoi faut-il vraiment le désert? Jésus, moi je le crois, qu'il était en mesure d'accomplir sa mission sans passer par le désert, parce qu'il est 100% Dieu. Mais pourquoi il est passé par le désert? Et là, dans ce désert, cet endroit aride, cet endroit dénudé de vie, cet endroit sombre et triste, le premier point est qu'on dit qu'il eut faim. Dans ce désert, Jésus eut faim. Il présente un besoin important pour lui, pour nous. Il eut faim. Ça, c'est le premier point qu'on peut relever dans le désert. Peut-être que ton désert aujourd'hui se présente par la perte d'emploi. C'est un besoin existentiel. Tu as besoin d'un emploi pour vivre. Un manque de financement. Peut-être tu cumules 3-4 emplois, mais il n'y a pas assez parce qu'il y a la famille à nourrir. parce qu'il y a les enfants à nourrir. Le désert, donc, peut se présenter sous une forme tangible, un peu. Ben, je ne sais pas si on peut dire tangible, mais se présenter sous une forme existentielle, un besoin existentiel. Jésus eut faim. Ensuite, le désert se présente à lui comme un test, une épreuve. Une épreuve. Et on voit le diable qui vient auprès de lui et lui dit, si tu es le fils de Dieu, fais ci. Si tu es le fils de Dieu, fais ça. Si tu es le fils de Dieu, fais ci. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est, mais on se pose souvent, mais personnellement, en lisant le passage, je me pose cette question, mais Satan, ben, le diable, t'as pas suivi quand il est passé par les eaux du baptême? T'as pas suivi que le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit est descendu? Tu n'as pas suivi que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé? Mais il le tente par ça encore, il dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. À travers les épreuves, nous savons que Dieu est avec nous, mais on commence à douter souvent. On commence à se dire, Seigneur, oui, c'est vrai, tu as dit, mais ah, c'est inconfortable cette situation. Est-ce que je veux être médecin, mais est-ce qu'il me faut passer tant d'années vraiment aux études? Pourquoi ne pas passer 2 jours, 3 jours et puis c'est tout? Pourquoi une semaine ne suffit pas? Je dois arrêter d'aller avec les amis, de passer mon temps dans les fêtes et tout, mais je dois être dans un laboratoire tout le temps à être en train d'opérer des marionnettes. Pourquoi? On a l'exemple aussi d'Abraham. Abraham, il est conduit dans le désert. Et puis, Dieu lui dit, écoute, à travers toi viendra mon peuple, Isaac. Et quand Isaac vient au monde maintenant, son seul fils, provenant de Sarah, Dieu lui dit, écoute, donne-moi en sacrifice ton enfant, imaginez-vous. Mais pourquoi? C'est lui le fils de la promesse, c'est lui. Mais pourquoi? Mais Abraham se soumet, il va quand même pour obéir à Dieu, pour honorer Dieu. Il ne se met pas en colère, il ne dit pas, hey, mais Seigneur, toi, écoute, il y a un problème peut-être avec toi. Non, il ne dit pas ça. Il se soumet. Jésus ici, il répond à l'ennemi, il ne dit pas, ah mais toi tu es fou, ah mais toi tu es... Souvent dans notre inconfort, dans le désert, on peut peut-être proférer des paroles contre Dieu. Mais comment Jésus répond à ces épreuves, à cette épreuve? Il répond à travers la parole de Dieu. Amen. Quel est ce désert que tu traverses? Quelle est cette situation qui te met dans l'inconfort? Réponds à travers la parole de Dieu. Il a dit, je suis avec toi, je t'accompagne, je ne t'abandonne pas. Donc chaque fois quand l'ennemi vient semer le doute dans notre esprit, écoute, je ne pense pas que tu es sur le bon chemin. Écoute, je ne crois pas que ce ministère fonctionnera. Écoute, je ne pense pas que tu trouveras un emploi. Tu dis, moi je suis le fils de Dieu. On a aussi l'exemple de Job. Job, lui qui a été béni par Dieu, lui qui était un modèle, il était béni. Du jour au lendemain, en une seule journée, il perd tout, y compris sa santé. Et ses amis commencent à le condamner, à dire, écoute Job, forcément tu as péché contre Dieu, forcément tu as fait quelque chose contre Dieu. Mais Job est resté ferme, il n'a jamais condamné Dieu. Il dit, si Dieu donne, il peut aussi le reprendre. Pourquoi pas? N'est-ce pas? À travers les épreuves, comment demeurons-nous fermes? Jésus nous montre l'exemple. Il est resté face à l'épreuve et il a répondu à travers la parole de Dieu, à travers la foi. Le désert peut se présenter aussi d'une façon subtile. d'une façon, on pourrait dire, naturelle, normale. Dans notre vie de tous les jours même, le désert peut se présenter ainsi. Par l'anxiété, par le stress, par cette question du lendemain, « Seigneur, vais-je réussir ? Seigneur, tu m'as mené dans ce pays, je ne connais personne, est-ce que je vais m'en sortir ? Vais-je trouver des frères et sœurs qui vont m'accompagner ? Vais-je trouver une famille ici ? Tu m'as dit, laisse ta famille là-bas et viens ici. » C'est aussi un désert, une période d'incertitude, une période d'inconfort. L'apôtre Paul présente vraiment cet aspect du désert aussi. Dans l'une de ses lettres, dans 2 Corinthiens, à l'église de Corinthe, il dit ça. « 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, etc. etc. » Et là, on se pose cette question, mais toi, tu traverses tout ça et tu es encore là. Les brigands t'ont attaqué. Hey! Tu as été en naufrage. Tu as traversé tout ça et tu es content de le dire même. N'est-ce pas? C'est triste. L'apôtre Paul, lui, son exemple est quand même fascinant. Hein? Lui qui est zélé par le ministère. Jean, il attaque les chrétiens. Il les attaque parce qu'il a cette conviction en lui qui fait ce que Dieu attend de lui. Et pendant qu'il est sur la route, en train d'aller pour continuer à persécuter les chrétiens, j'imagine qu'il avait tout ce prestige des soldats qui l'accompagnaient. Imaginez-vous, Saul, il part. Et là, Jésus se révèle à lui, il devient aveugle. Mais quelle humiliation! Le désert ainsi peut se présenter sous la forme d'une humiliation. Dans notre vie courante, toujours avec cette fameuse voiture, un autre fait s'est passé. Un jour, on voulait prendre de l'essence. Je pense que cette voiture, le Seigneur nous a permis de l'avoir vraiment pour m'instruire beaucoup de choses. Vraiment, j'apprends des choses. Cette journée particulièrement, j'étais justement en train de préparer ce message et je réfléchissais à savoir, mais est-ce que moi, dans ma vie personnelle, comment se présente le désert dans les choses quotidiennes, simples? Comment ça se présente à moi? Et ce jour, cette même journée, j'ai eu une réponse claire, hein? On prend donc la voiture, on se rend compte qu'il n'y a pas d'essence, on s'arrête à une première station d'essence. Pas d'essence, excuse. Pour gonfler les roues en avant. On s'arrête là, on voit une machine, et la machine nous dit de mettre des sous pour pouvoir gonfler les roues. On met la première sous, ça ne fonctionne pas. On dit, ah. On met la deuxième sous, ça ne fonctionne pas. On dit, mais c'est quoi? La troisième sous, Émilie voulait mettre et j'ai dit non, tu sais, c'est à fait. On a déjà perdu 2 sous. On a déjà perdu 2 $. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc j'étais frustré. Et je vais auprès du dépanneur dans la station service. Je lui dis, monsieur, écoute, on vient de perdre 2 $ dans votre machine là. On aimerait un remboursement. Et il dit, oh, vous avez utilisé cette machine? Mais en fait, elle ne fonctionne pas. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'avez pas mis l'affiche? Une simple affiche non fonctionnelle. Et il dit, oui, je voulais parler de ça au patron, je n'ai pas le droit de faire comme je veux. Et je lui ai dit, ok, remboursez-moi mon argent, donnez-moi mon argent. Il me dit, non, je ne peux pas. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, il faut la permission du patron. Mais je ne voulais pas laisser mon 2 $. Non! Je lui ai dit, donne-moi le numéro de ton patron, je l'appelle. Je voulais me présenter comme celui qui sauve les problèmes des autres pour que d'autres personnes ne tombent pas dans le même problème que moi. J'ai dit, je vais l'appeler, je vais parler à lui. Il me dit, je ne te donne pas. Et là, je ne savais plus quoi dire. J'étais il y avait ces dames qui me regardaient et se disaient, mais pour $2, lui, il fait tout ce problème. Pour $2, je ne voulais pas laisser mon $2. Après, il me donne une feuille et il dit, mets ton numéro et ton nom. On va te rappeler. Pendant que je suis en train d'écrire mon numéro, mon nom, dans mon cœur, quelque chose m'a dit, mais vraiment, pour $2, tu vas passer toute ta journée là à confronter cette personne qui n'est qu'un employé qui... Pour $2, et là, je me suis senti tout d'un coup très mal. Et j'arrête d'écrire mon numéro. Et pendant que j'étais en train de me retourner, il dit, monsieur, écoutez, je comprends comment vous souffrez. Si vous voulez, je vous donne les $2 de ma poche. Et là, j'étais choqué. Je me suis dit, ah ouais, je suis arrivé à tel point que lui, il va me rembourser avec sa poche. Et là, frustré, je me suis tué, je suis parti dans la voiture. Et Émilie me dit, tu vois, ça c'est ton désert aujourd'hui. Et si le désert peut se présenter dans notre vie quotidienne, des choses habituelles. Mais le désert représente le passage d'entrée vers une autre dimension. Le désert, ces années d'expérience d'un médecin, par exemple, à la fin, il devient un bon médecin. Les jeunes qui sont en fin de session ou dans les périodes d'examen, ils ont parcouru toute la session à travailler, à étudier pour réussir. Ce n'est pas simple. Matthieu 4, du verset 12 à 17, nous dit, « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Suite à son désert, Jésus est rentré dans son ministère, dans son appel. La Bible nous présente qu'après avoir passé ces 40 jours et 40 nuits isolés, il s'est dévoilé au monde par la suite. Rempli par le Saint-Esprit, guidé par Dieu, il est allé dans ces endroits où il y avait les ténèbres, dans ces endroits où résidait l'ombre de la mort et la lumière à lui. Laisse-moi te réconforter aujourd'hui en te disant, mon frère, ma sœur, ce désert que tu traverses, à la fin du compte, Jésus va t'élever à travers cela. Jésus peut utiliser ton désert comme source de témoignage. Ça peut être cette maladie que depuis longtemps tu l'as, et le jour de ta guérison, Dieu t'utilise comme témoignage qu'il est le Dieu des miracles. Ça peut être ces examens, peut-être dans ta session, les professeurs disent, écoute, toi tu ne vas pas réussir, toi tu as du mal dans tes examens, rien ne montre que tu vas t'en sortir. Mais tu sais dans ton fort intérieur que tu vas réussir parce que tu travailles et parce que tu n'es pas seul. Je vais vous parler un peu de... Je m'approche vers la fin, mais j'aimerais un peu vous parler de mon vécu, mon petit vécu, je pourrais dire ça. J'ai été dans des établissements françaises au Cameroun et je me souviens, pendant que je sais, le système est complètement différent ici, pendant que je transitais de la seconde à la première, de la troisième à la seconde plutôt, il y a le directeur qui a dit, écoute, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Il disait ça à tout le monde. Toi, tu ne vas pas t'en sortir dans tes études. Tu ne vas pas réussir, toi. Au point où il a appelé mes parents, il a dit, écoute, votre fils, je crois qu'il faut pour lui qu'il reprenne son année scolaire. Et ma mère était frustrée. Elle dit, non, il va réussir. Je sais qu'il a des difficultés, mais qu'il va réussir. Effectivement, j'avais des difficultés cette année. Je ne m'en sortais pas comparé aux années précédentes. Mais je priais. Et chaque fois, pendant que les examens s'approchaient, les examens de fin de session vraiment, je disais, Seigneur, aide-moi. Je ne pense pas que je peux par moi-même, mais que par toi, par ta volonté, je peux réussir. J'ai redoublé d'efforts, je travaillais doublement plus, je me couchais comme vers minuit. Je conseille ça à personne, hein? À personne. C'est important de dormir la nuit. Mais j'étais vraiment déterminé à pas seulement réussir, mais à montrer au directeur de l'établissement, écoute, tu te trompes sur moi. Donc, je travaillais d'arrache-pied. Et la difficulté de plus, c'était que j'avais des examens précédents de l'année dernière à rattraper pendant que j'étais dans l'année où j'étais en train d'accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le sens, j'étais en seconde, je transitionnais vers la première, mais j'avais aussi des examens de la troisième à faire. Donc, j'avais comme deux grosses sessions d'examens pour deux années à faire. Et tout le monde disait, non, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis que je puisse réussir. Et là, c'était un choc, une surprise. Le directeur ne comprenait pas, mais comment toi avec ton résultat de cette année, tu cumules deux années scolaires, mais tu t'en sors. C'était surprenant. Tout ça, c'est le Seigneur qui le fait. Donc peut-être tu es dans une situation similaire avec tes études. Tu travailles et tout, tu te dis, ok, je ne vais pas réussir. Peut-être même tes professeurs te disent que tu ne vas pas t'en sortir. Laisse-moi te dire que si tu travailles vraiment, si tu apprends et que tu es avec le Seigneur, il t'aidera et tu réussiras par la foi. Le désert, Matthieu 6, verset 6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le désert se présente aussi comme cet endroit isolé que nous créons. Comme cet endroit où nous nous éloignons de toute forme de distraction. Cet endroit où nous savons que nous allons rencontrer le Seigneur. C'est dans le désert que Moïse a rencontré Dieu, a rencontré l'Éternel. C'est dans le désert que Joseph a eu des révélations pour le royaume, dans la prison. C'est dans le désert que Jésus était. Dans ce désert, Jésus était en communion avec le Seigneur. La Bible nous révèle ça dans... Plus haut, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Cet endroit aride, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé là-bas. Et dans cet endroit aride, il y a eu une rénovation, il y a eu une nouvelle dimension. Dans ce désert, qui peut être peut-être ta chambre, le Seigneur t'invite à passer du temps avec lui, à t'éloigner de toute forme de distraction. Et je pense que ça, c'est la raison du désert dans nos vies. À part l'aspect aride, à part l'aspect triste, à part l'aspect d'isolement du désert, nous devons être comme Christ. Nous devons faire comme Christ. Nous devons prendre le désert comme cet endroit où Dieu nous appelle justement à vraiment lui faire confiance, à vraiment nous accrocher à lui, nous approcher de lui, à lui dire, écoute, Seigneur, je ne suis pas capable. Écoute, je ne m'en sors pas, je ne peux pas par mes forces. Le Seigneur nous attend dans le désert, dans cet endroit, pour nous parler, pour nous révéler son dessein. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je suis vers la fin de mon message. Et j'aimerais vous dire un truc qui est pour moi, selon moi, très, très important. Le désert, oui, c'est cet endroit aride, cet endroit de défi, cet endroit de complication. Le désert est, oui, cet endroit où nous rencontrons le Seigneur, où nous sommes en intimité avec lui. Mais comme Apocalypse 19, du verset 7 à 8 dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le désert est cet endroit où nous tous, sans exception en tant que chrétiens, nous attendons la venue du Christ, la venue de notre époux. C'est cet endroit où Dieu nous permet de devenir plus comme Christ, nous permet de nous sanctifier, nous permet d'être comme il attend que nous soyons. C'est cet endroit un peu comme de fiançailles, où nous soupirons, où nous disons « Seigneur, viens et que ta volonté soit faite ». Aujourd'hui, peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église. Laisse-moi te dire que tu as bien fait. Seul Jésus peut t'aider dans ce désert que tu traverses. Ce désert peut être émotionnel, ce désert peut être financier, physique, matériel, peu importe. Jésus seul va te conduire. Jésus seul est la lumière dans ce désert. C'est lui le seul chemin. Et la certitude, comme le dit Apocalypse, la certitude que nous avons en tant que chrétiens, c'est que, à la fin de compte, à la fin de toute chose, Christ sera avec nous et nous serons glorieux comme il attend de nous. Amen. J'aimerais, sur ce, inviter le pasteur Marc pour le moment de prière et aussi pour la Sainte Cène.
Ben, ce sont nos apprentis, mais aussi ce sont des serviteurs, des servantes qui nous apportent cette nourriture dans notre désert. Hein? Et c'est intéressant, on parle du désert et Abdias a dit, peut-être que toi tu passes par un désert. Et pour chacun, pour toi, c'est peut-être très différent de la personne à côté. C'est intéressant que notre église, on s'est donné le nom l'Oasis. Et l'Oasis, c'est un lieu dans le désert. Un lieu dans le désert où on peut aller, se reposer, se rafraîchir. Et je pense donc que ce repas auquel Jésus nous invite, c'est un repas d'oasis. C'est le repas où il nous dit, venez à moi. Venez à moi et je vais vous rafraîchir. Je vais vous nourrir. Je vais vous abreuver. Et donc, si tu passes par un désert, viens au repas. Si tu crois en Christ, n'hésite pas, viens et mange et bois et reçois de Christ cette nourriture, cette boisson. Reçois de lui aussi cette rencontre. Au fond, c'est ça qu'Abdias nous disait. Jésus veut venir te rencontrer pour te donner de la force et renforcer ta foi, parce que ta vie, il y en aura peut-être d'autres du désert. Peut-être tu vas continuer dans le désert dans lequel tu es, ou peut-être tu vas en sortir, mais plus tard, il y en aura peut-être un autre. Mais toujours victorieuse, tu seras toujours victorieuse avec Christ. Alors, j'inviterai Hector et David à venir en avant. on va célébrer le repas ensemble.